trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Nous allons parler d'un spectacle qui se déroule au théâtre Pierre Tabar, qui s'appelle La Reine de la Nuit, et j'ai le plaisir de recevoir Christiane Marchewska. Bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas écorché votre nom.
Non, parfait.
Alors, cette Reine de la Nuit, de quoi s'agit-il? C'est d'après un roman de Marc Bem. C'est un petit peu la résistible ascension d'Edmund Kerl et sa compromission avec le Troisième Reich.
Oui, avec le national-socialisme. C'est-à-dire qu'on prend l'héroïne Edmund à l'âge de 15 ans et on la suit jusqu'à ce qu'elle soit condamnée à Nuremberg pour crime contre l'humanité, donc jusqu'à l'âge de 31 ans. Et on suit toute la montée du nazisme chez les jeunes, chez des adolescents. Et comment quand on met le petit doigt dans un engrenage, on n'arrive plus à s'en sortir, on se fait manger le bras.
Et en fait, elle commence à rentrer là-dedans, pas vraiment par conviction, par opportunisme.
Par hasard. En fait, c'est par hasard. Parce qu'elle rencontre Röhm, le chef des SA. Elle prend un pot avec lui. Comme il n'a pas d'argent pour payer les consommations, c'est elle qui les paye. En remerciement, il l'inscrit au Parti National Socialiste. Il lui donne une carte, numéro 5365. Et depuis, j'ai lu qu'il rajoutait toujours le chiffre 5 avant pour faire plus. Normalement, elle était peut-être 365, mais bon, il rajoutait le chiffre 5. Donc, une fois qu'elle est inscrite au Parti National Socialiste, la semaine d'après, on l'emmène à une réunion du parti dans un gymnase. Elle écoute des blagues juives, elle rigole bien, c'est marrant. Et puis, après, elle est à l'école, donc comme elle n'a pas beaucoup de sous parce que son père est mort. Elle vole un petit peu d'argent, donc elle est condamnée pour escroquerie. Le parti l'a fait sortir de prison, mais en échange, on lui fait signer des papiers. Et puis comme ça, ça fait boule de neige et petit à petit, elle se retrouvera directrice d'un camp de concentration. Alors aussi par opportunisme, pour se sauver de situations délicates également. On la retrouve également à Paris. Alors je dois dire que le personnage est fictif. Hein, Marc Bem a inventé ce personnage. Mais tous les événements historiques sont vrais. On trouve la nuit des longs couteaux, on trouve la visite d'Hitler à Paris. Donc toutes les références historiques et tous les personnages Goebbels, Göring, Himmler, on les retrouve tous, sont des gens qui ont existé, quoi. Je pense que l'auteur a rassemblé dans une femme tout ce que l'Allemagne a fait entre 1932 et 1945.
Marc Bem, c'est celui qui avait écrit La Mortelle Randonnée, ne m'abuse aussi.
Oui, oui. Film tourné par Claude Miller, voilà, avec Isabelle Adjani et Michel Serrault.
Et comment ça s'est passé pour vous, cette rencontre avec ce texte? Qu'est-ce qui vous a décidé à l'adapter au théâtre?
Mais moi, je suis toujours très intéressée par cette période parce que déjà avant, je me disais, mais comment ça a pu prendre chez des jeunes en Allemagne dans les années 30? J'arrivais pas à comprendre comment. Et puis en lisant ce texte, là, j'ai compris. Comme je vous disais, quand on met le petit doigt dans un engrenage d'un intégrisme quelconque, en fait, là, il parle du nazisme, parce que je pense que c'est ce qu'il connaissait le mieux, étant donné que Marc Bem a fait le débarquement en Normandie en tant que GI, donc ils connaissent très bien cette époque. Et j'ai compris et je me suis dit, tiens, ça peut être bien de montrer aux gens comment petit à petit on est devenu. J'avais une idée abstraite, comment on devient nazi. Je me suis aperçue que petit à petit, sans s'en rendre compte, on le devient quand on est très jeune et qu'on n'a pas de repères. Et donc oui, j'ai feuilleté un jour cette Reine de la Nuit et j'ai eu envie de le monter. Donc j'ai obtenu les droits après plusieurs mois parce que...
Vous avez rencontré l'auteur?
Oui, alors... attendez, je ne sais pas si je peux raconter une petite anecdote
marrante.
Mais si
on peut tout se permettre, on est à Divergence FM quand même.
Bon, alors, j'achète ce roman, je le lis, ça me plaît, je me dis, je vais essayer d'avoir les droits. J'appelle la maison d'édition. Je tombe sur quelqu'un qui me dit « Ouh là là, les droits sont pris, c'est Jean-Jacques Benex qui va en faire un film. » Oh, je me dis « C'est pas vrai, je vais absolument monter. » Bon, alors, je me dis « Marc Bem, américain, j'avais de la famille à New York. » Je lui dis « Est-ce que tu peux essayer de trouver Marc Bem à New York ?» Peut-être qu'en passant directement par l'auteur, il me dirait « Oui. » Donc, pas de Marc Bem à New York. J'ai une amie qui s'appelle Ariel Dombal, on était dans le même cours d'art dramatique. Elle allait au Mexique Et Marc Bem a écrit la préface de La Reine de la Nuit en 82, je crois, et au Mexico. Donc je lui dis, est-ce que tu peux essayer de trouver un Marc Bem à Mexico ? Pas de Marc Bem à Mexico. Donc quelques mois passent, j'avais toujours envie de le jouer. Je rappelle la maison d'édition en disant, ben alors, est-ce que Jean-Jacques Benex fait toujours le film et tout ? Je tombe sur quelqu'un d'autre qui me dit, mais pas du tout. C'est pas les droits de La Reine de la Nuit qu'il a demandé, c'est les droits de la Vierge de Glace. Et la personne ajoute, me dit, mais de toute façon, je vois Marc Bem cet après-midi, je lui en parlerai. Alors j'ai dit, ah bon, il est de passage à Paris ? Et on me dit, mais ça fait 50 ans qu'il habite Paris. Oui. Il habite dans le 14e. Et moi, je l'ai fait rechercher pratiquement sur la terre entière. Donc, Marc Bem, qui était un homme adorable, il a accepté tout de suite, mais il m'a dit, je veux quand même avoir une lecture de l'adaptation que vous avez faite. Donc, j'avais loué un théâtre. Une fois que j'ai eu bien travaillé l'adaptation, Marc Bem est venu avec son agent. J'ai fait une lecture. Il m'a dit, la progression dramatique est très bonne. Donc, ok, pas de problème. C'est comme ça que j'ai les droits. Alors, je l'ai créé au Lucernaire. J'avais envoyé l'adaptation au directeur du Lucernaire qui prenait l'avion. Il a lu le texte dans l'avion. Au bout de 2 heures, il m'appelait et il m'a dit, c'est d'accord, je vous prends, le texte est formidable. Après, donc, j'ai joué au Théâtre du Renard, au Guichet Montparnasse et au Théâtre du Nord-Ouest pendant 2 ou 3 ans, 2 ou 3 saisons de suite.
Et l'accueil du public
formidable.
Moi, je suis sortie complètement bouleversée quand même du
oui,
spectacle.
Oui, oui. Mais vous savez, j'ai joué donc ce spectacle donc par épisode pendant 12 ans, sur une distance de 12 ans. Il y a 12 ans, les spectateurs m'attendaient à la sortie et me disaient « Mais comment vous pouvez vivre avec un personnage épouvantable comme ça en vous toute la journée ?» On me disait « Ou alors on n'osait pas applaudir parce qu'on avait peur d'applaudir ce personnage. » 10 ans après, comme j'avais beaucoup joué, je me suis dit, tiens, je vais varier un petit peu. Et avec le régisseur du théâtre, on a eu l'idée de faire voter les spectateurs. Donc avant la représentation, on disait 5 volontaires pour faire les jurés. Et vous direz coupable ou non coupable. Et en fonction de votre vote, la fin changera. Et moi, je n'avais pas de fin où elle n'est pas coupable, évidemment, parce que je pensais tellement que les gens diraient que j'étais coupable. Donc, je pensais tellement jouer la fin où elle est pendue pour crime contre l'humanité. Et le jour de la première, j'entends « non coupable, non coupable, non coupable, non coupable ». J'ai fait comme si je n'entendais pas, j'ai joué ma fin où elle est pendue, parce que je n'avais pas de deuxième fin pour non coupable. Le lendemain, pareil, non coupable, non coupable. Il y a même quelqu'un qui criait « innocente ». Donc, on a cessé après de faire voter les spectateurs. Comment voulez-vous ? Moi, je ne suis pas auteur, mais je n'allais pas trahir Marc Bem en écrivant une deuxième fin. Et alors là, j'attendais les spectateurs à la sortie, puis je disais, mais comment ça se fait avec les pires choses qu'elle fait, vous votez non coupable ? Alors, quand c'était des gens d'un certain âge qui avaient connu l'occupation à Paris, on me disait, ah oui, mais nous, on avait les boches aux fesses, hein, donc on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et quand c'était des gens plus jeunes, on me disait, mais nous, on ne sait pas ce qu'on aurait fait à sa place. Ce qui prouve qu'en 10 ans, les mentalités ont quand même changé.
Mais elle fait quand même des choses abominables. Il y a un crescendo dans l'abominable, dans la pièce.
Elle fait des choses abominables. Mais moi, Marc Bem m'a écrit une lettre parce que j'ai joué ce monologue pour Direct 8, une chaîne de la TNT. Et Marc Bem, qui n'avait pas pu voir le spectacle, en fait, parce qu'il était malade les 2 dernières années. Donc, il l'a vu sur sa télévision. Il m'a écrit une lettre. Et après, quand c'est passé sur Direct 8, le principe était qu'il y ait un débat avec les téléspectateurs. Donc, tous les téléspectateurs disaient, elle est coupable, coupable. Et Marc Bem m'a écrit ceci. Edmond n'est coupable de rien, sauf d'être né en Allemagne sous les nazis. J'ai sa lettre, d'ailleurs, en anglais. Mmh. Je peux vous la lire si vous voulez. Et donc ça donne à réfléchir quand même, parce qu'être peut-être adolescent dans les années 30 en Allemagne, il n'y avait pas de morale. Donc elle faisait les choses, en plus elle n'avait pas de père, sa mère était partie quand elle avait 10 ans. Qui pouvait la mettre sur le droit chemin ?
Mais c'est vrai aussi qu'elle tue les gens à un moment, mais avec une certaine facilité.
Mais oui, d'accord. Elle tue les gens, mais si vous remarquez bien, c'est toujours pour se sortir de situations où elle-même va être tuée. Sauf dans le camp de concentration, où elle tue un gitan pratiquement gratuitement parce qu'il a volé des bonbons et des carrés de chocolat. Mais autrement, quand elle tue les 2 soldats français, c'est parce que elle dit ils veulent mon corps, et enfin ils vont me tuer, mais d'abord ils veulent mon corps, donc bon, elle les tue. Quand elle tue Naïma Josephson, Naïma était une espionne, elle va la faire chanter en montrant des photos compromettantes, donc elle la tue. Quand il y a aussi, bon, elle tue le docteur Frankovitch, qui est juif et qui voulait l'épouser. Mais quand il s'est rendu compte qu'elle était nazie, il la gifle. Donc là, elle s'est sentie humiliée parce qu'elle dit « Mon père ne m'avait jamais touchée dans toute sa vie, mais lui, ce petit juif, il m'avait giflé. » Donc là, elle le tue. Alors évidemment, là aussi, c'est gratuit, quoi. C'est, tu ne tues pas quelqu'un parce qu'il vous a giflé. Mais c'est pour ça aussi que ça s'appelle « La reine de la nuit ».
C'est la question que j'allais vous poser.
Voilà, dans la flûte enchantée de Mozart, la reine de la nuit est un personnage ambigu. Alors, Edmond chante toujours aussi un passage de la reine de la nuit, mais il y a aussi la reine de la nuit qui était le nazisme. C'est à double...
Mais justement, on va faire une petite pause musicale. Mais justement, avec la reine de la nuit, le grand air de la reine de la nuit, avec Lucia Pop. Divergence FM, le 93.9, la merveilleuse et regrettée Lucia Pop dans cette Reine de la Nuit, opéra de Mozart, et c'était au Otto Klemperer à la baguette. Nous parlons donc de la pièce qui a lieu actuellement au théâtre Pierre Tabar, la Reine de la Nuit, et nous recevons Madame Christiane Marchewska pour nous parler de cette pièce. Je vais me tourner vers Grazia. Tu as vu le spectacle avec moi. Tu es sortie complètement bouleversée.
Oui, c'était à la limite du supportable. Enfin, pour moi, franchement, J'ai vécu en Allemagne, à Nuremberg. Je suis allée dans ce tribunal hein, parce qu'il fallait que je dépose des papiers pour me marier.
Tu t'es mariée à Nuremberg.
Je me suis mariée à Nuremberg. Je suis allée, je vous disais tout à l'heure, à l'endroit d'où Hitler haranguait la foule. Oui, et c'est vrai que ça m'a ramené à des souvenirs, à ma visite à Dachau, qui était devenu à la fin un camp d'extermination. Ça a été pour moi très, très, très difficile. Je me suis interrogée quand même sur ce personnage et sur sa culpabilité. Alors, on a l'impression, effectivement, qu'elle fait tout ça avec quelque part une telle naïveté. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en fait. Ou alors, elle calcule tout, mais... Ou alors elle joue une pièce, elle aussi, étant donné que cette relation maladive à son père, elle veut peut-être interpréter le monde de façon théâtrale, comme son père le faisait sur la scène. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Je suis sortie très mal de cette pièce. Je dois vous féliciter pour votre performance. C'est extraordinaire. La mise en scène, elle est aussi extraordinaire. Elle est très parlante. Hein. Je veux dire, c'est cette cage, cette sorte de cage qui a la forme d'une barre de tribunal. L'impère de SS. Et puis à la fin, donc, lorsque vous branchez cette lumière sur vos visages... Pour le camp de concentration, oui. Avec des lunettes. Oui. Ça, c'est vraiment... Tout est fait de façon à ce que le spectateur... Enfin, moi, je suis restée paralysée. J'ai sauté de temps en temps sur mon fauteuil parce que c'était dur, dur, dur.
Pour le camp de concentration, ce que j'ai voulu faire... C'était quelque chose à part. Je prends un ton complètement mécanique. Ouais. Je ne juge pas, je ne fais que décrire les choses. En plus, j'ai mis des lunettes. C'est un petit symbole, elle ne veut pas voir. Et j'ai des mitaines, elle ne veut pas salir les mains. Et la petite lampe que je prends pour m'éclairer le visage, parce que déjà, je pense que s'éclairer le visage... avec une lampe, ça donne des cernes, on est bouffi et tout. Donc, je voulais un visage horrible. Et cette lampe, pour moi, c'était l'idée des miradors, enfin, les projecteurs qui sont sur les miradors dans les camps, qu'on braquait comme ça. Alors, parfois, je l'ai joué dans certains théâtres où il y avait un régisseur qui pouvait sortir de sa cabine de régie et qui, lui, avait un gros projecteur. Et c'est lui qui faisait les faisceaux sur la scène. Et il me coinçait, il m'attrapait dans des faisceaux lumineux. Et là, j'ai pris le principe de la lampe. Et alors après, oui, parce que je veux que ça fasse un petit tout et qu'après, on me retrouve derrière la barre de tribunal comme si rien ne s'était passé et que le spectateur se demande ce voyage qu'on lui a fait faire dans ce camp, est-ce qu'il l'a rêvé ou pas ? Voilà, j'ai voulu faire vraiment quelque chose de très, très, très différent.
Mais elle vient d'un milieu privilégié quand même, on le disait tout à l'heure.
Oui.
Un milieu cultivé. Elle a un rapport très curieux avec son père qui l'obsède quand même.
Oui, alors moi, j'ai une autre version. Je pense qu'il faut voir au deuxième degré. Son père était un dramaturge bavarois qui jouait beaucoup Shakespeare. D'ailleurs, il paraît que Mark Bem, quand il avait 19 ans aux États-Unis, jouait le roi Lear et tout ça. Et... Donc, son père lui a beaucoup parlé des pièces de Shakespeare. C'est lui qui l'a initié à Mozart. Et le père et la fille faisaient toujours des balades. Et pendant ces promenades, le père lui parlait et il lui disait « Je t'ai appelé Edmond en l'honneur d'Edmond, le méchant fils bâtard de Gloucester dans le roi Lear. » Donc, cette petite fille qui a eu toute son enfance, son père qui lui a raconté « Tu t'appelles Edmond parce que le méchant fils bâtard », est-ce qu'elle n'a pas voulu justifier ce prénom ? Et elle savait que ça serait suicidaire, elle l'a fait pour aller retrouver son père, pour mourir à la fin et pour retrouver son père, parce qu'il y a ce déni de la mort du père où elle le voit tout le temps, mais c'est aussi quelque chose qui revient dans l'œuvre de Mark Bem. Par exemple, dans « Mortelle randonnée », Isabelle Adjani et Michel Serrault, c'est le père et la fille, se cherchent sans arrêt. Là, dans La Reine de la Nuit, la fille cherche le père. C'est aussi à cause d'une anecdote privée de la vie de Marc Bembon. Mais pour moi, il y a ce côté psychanalytique qui fait qu'elle justifie ce prénom et elle va retrouver son père parce qu'elle sait la fin.
Il y a aussi le Doberman qui revient.
Alors,
Doberman, voilà. Ça représente un peu sa culpabilité.
Et voilà. Alors, dans la préface à La Reine de la Nuit, Marc Bem dit, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, je vous le résume un petit peu. Il dit, quand j'avais 11 ans, je me promenais dans un bois et un énorme Doberman s'est dressé devant moi. Ses yeux étincelaient. Je me souviens, il disait, il avait des yeux gros comme des abricots. Et Marc Bem dit, je me suis approché de ce Doberman, je l'ai caressé. Et parole, il m'a souri. Et Marc Bem ajoute, dans quelques lieux que je me trouve, j'ai toujours souvenir de ce Doberman qui, pour moi, peut représenter Hitler, Satan, enfin le mal. Et en fait, j'ai compris que le Doberman, Marc Bem avait caressé à l'âge de 11 ans le mal que chacun a en soi. Donc ce Doberman qui apparaît sans arrêt dans La Reine de la Nuit, effectivement, moi je le prends pour la conscience, il se rapproche de plus en plus, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, et à la fin, c'est grâce au Doberman qui lui saute dessus qu'elle est prise, qu'elle est emmenée à Nuremberg.
Tito, t'as pas encore entendu.
Non, moi je voulais parler de la culpabilité dans le sens où la question du choix, est-ce qu'on a le choix? Moi, je suis profondément convaincu qu'on a le choix. Même si elle peut avoir des circonstances atténuantes, qu'elle est importée dans une situation, que c'est une époque où il n'y avait pas de repères, etc. Moi, je crois qu'on a une conscience. Donc, on a le petit Doberman, peut-être, qui est là et qui nous guide quelque part. Et si on n'a pas ça, c'est qu'on s'en fout. Vraiment. N'importe qui a vécu un régime totalitaire comme ça sait qu'on a toujours le choix. On a le choix, franchement, on a le choix. Après, les conséquences, ça c'est une autre chose, mais elles ne sont pas quand même dramatiques au point d'y laisser sa vie ou des choses comme ça. Donc, de là à arriver à dénoncer ses amis ou des choses comme ça, c'est parce que si on le fait, c'est parce qu'on veut bien et qu'on est parfaitement conscient et qu'on s'en fout complètement. Le nazisme a duré de 33 à 45. Si on avait un mauvais emploi, on était au mauvais endroit, on pouvait toujours changer de boulot. Personne l'aurait mise en prison parce que, sauf la secrétaire d'Hitler ou des gens comme ça qui auraient du mal à dire « Monsieur Hitler, j'ai trouvé un autre emploi ». D'ailleurs, la dame, elle a beaucoup souffert après la guerre, justement, d'avoir été la secrétaire du
Traudel,
oui.
Traudel Jung.
Elle a beaucoup souffert de ça, et donc perd son âme. Voilà, elle est acquittée.
Mais elle adorait Hitler. Hein. Elle disait dans son livre La tanière du loup, elle dit, il représentait une figure paternelle, il était gentil avec nous, il nous offrait des cadeaux à Noël. Et elle a été déçue d'Hitler quand il s'est suicidé. C'est là qu'elle a pris conscience qu'il les avait abandonnés. Et là, elle a vraiment...
Mais quand on est dans un milieu comme ça, où on n'a aucun repère, là, je comprends. Je peux comprendre aussi quelqu'un qui, tout d'un coup, est affecté à un camp de concentration, un soldat, un truc comme ça. Comment voulez-vous dire « non, je ne ferai pas ça » ça me paraît difficile au type qui est au Mirador de dire...
Moi, je ne crois pas qu'on peut... Vous avez raison, on peut toujours dire non. Et même au Mirador, le type dans le Mirador...
Oui, il peut tirer à côté.
Il peut sauver, il peut...
Oui, il peut tirer juste à côté.
Oui.
Viser mal, viser. Non, mais moi, je pense qu'on peut toujours. On peut,
ouais,
on peut.
Ils ont été embrigadés. Merci. Excusez-moi. Depuis tout petit, il fallait... On leur a servi au biberon l'idéologie nazie assez jeune. Donc, c'est ça. Elle était très jeune quand
elle avait 15 ans.
15 ans, oui.
Voilà, donc bon, 15 ans, on est encore jeune. On peut facilement être influençable. Mais c'est vrai qu'on peut choisir. Oui,
parce que, bon, je suppose que la secrétaire d'Hitler, par exemple, elle m'a beaucoup fait penser à la secrétaire d'Hitler. Elle peut-être qu'elle était dans un milieu comme ça, et donc elle est passée directement dans un milieu familial comme ça, directement au secrétariat d'Hitler, donc elle a rien vu venir, rien vu faire.
Non, elle n'était pas du tout. Moi, j'ai lu son bouquin La tanière du loup.
Ah, ça m'intéresse.
Oui, non, elle était dans un milieu qui était presque anti-nazi, autant qu'on puisse être anti-nazi. D'ailleurs, elle le dit, j'ose pas retourner dans ma famille parce que ma famille va me dire, bon, bah, t'as pris tes responsabilités, t'as voulu aller travailler avec Hitler, nous, on ne te veut plus, quoi. Donc, non, elle était. Mais c'est pareil, elle aussi lui manquait son père. Elle n'avait pas de père. Son père était mort très... Et elle a trouvé un père en Hitler, quoi.
Oui, mais...
Tito, s'il te plaît, deux petites secondes. Je vois que vous avez sorti la lettre que vous avez adressée, Marbel. Est-ce que vous pouvez nous traduire ce qu'il vous disait?
Oui. Alors, donc c'est quand il a vu la Reine de la Nuit à la télé, hein, sur Direct 8. Je la traduis, je la lis directement en français.
En français, bon. S'il vous plaît.
Alors, je viens juste de voir La Reine de la Nuit en DVD. Magnifique, Titanic, masterpiece, je ne sais pas quoi, une pièce importante. Bravo. Quand je pense à votre dévotion pour ce roman pendant toutes ces années, je suis étonnée par votre foi qui aura été plus longue que le Troisième Reich, qui aura duré plus longtemps que le Troisième Reich. Mais dans le public, dans le débat public, parce que comme je vous disais, il y avait un débat public, mais dans le débat public, pourquoi ce verdict unanime contre notre héroïne? Coupable, pendez-la, lapidez-la. Et là, Marc Bem dit ceci, souligné, Edmond est coupable d'absolument rien, excepté d'être né en Allemagne sous les nazis. Mais bon, il faut que les choses suivent leur cours. Les requins auront toujours le dernier mot. Peu importe, j'espère que vous continuerez à avoir beaucoup de production pour ce travail, peut-être même à la Comédie Française. Et il termine et il dit « Cool, Marc !» Donc, vous voyez, quand l'auteur défend son personnage comme ça en disant qu'elle n'est coupable de rien, sauf d'être née sous les nazis, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec Marc Bem, parce que Edmond, comme on le disait, elle sort d'un milieu privilégié. Elle a lu Mein Kampf. Elle a dit « J'ai lu Mein Kampf jusqu'à la page 30 avant de jeter le bouquin. L'idéologie de nazi est une idéologie de débile, mais elle fait les choses. » Alors, la phrase de Marc Bem, c'est, je pense que c'est l'éducation, le lavage de cerveau que tous ces jeunes ont eu dans les années 30. Donc, ils n'étaient pas responsables de...
Ça sera le mot de la fin, parce que je vois que l'heure tourne. On va rappeler que c'est donc La Reine de la Nuit, que ça se joue au théâtre Pierre Tabar jusqu'au 29. Et donc, c'est donc le vendredi, samedi à 19h et dimanche à 17h. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre.
Merci à vous.
Et on va se quitter avec un leader de malheur, Kinder Totter Liedern. Et on vous dit à la semaine prochaine et bonne semaine théâtrale.
Ciao, ciao. Glück.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, c'est de 12h30 à 14h, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.